Vous écoutez, on lit pour vous.
L'humanité, sur le point de dire adieu à un avenir climatique sécuritaire. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 18 juin 2025 dans Le Devoir. Notre incapacité collective à réduire notre dépendance aux énergies fossiles et notre manque d'ambition dans la lutte contre la crise climatique sont en voie de ruiner les chances de limiter les dérèglements du climat à un seuil sécuritaire, préviennent une soixantaine de scientifiques dans une nouvelle étude internationale. Dans ce contexte, ils soulignent que l'ajout de projets pétroliers et gaziers ne fera qu'aggraver la situation. En signant l'accord de Paris sur le climat en 2015, la communauté internationale s'est engagée à tout mettre en œuvre pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle afin de réduire le plus possible les conséquences de la pire crise environnementale de l'histoire de l'humanité. Mais pour y parvenir, il aurait été urgent de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Or, depuis 10 ans, ces émissions continuent d'augmenter, principalement en raison de notre dépendance aux énergies fossiles. Elles dépassent aujourd'hui les 50 milliards de tonnes par année. Résultat, tout indique que d'ici 3 ans, nous aurons brûlé tout le budget carbone qui nous aurait permis de respecter la limite du 1,5 degré Celsius, évaluée à 130 milliards de tonnes, conclut une nouvelle étude mise en ligne par la publication scientifique Earth System Science Data. L'étude est signée par 61 scientifiques, dont des collaborateurs du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC. La fenêtre qui nous permettrait de respecter le 1,5 degré Celsius se referme rapidement. Résume, Joëri Rogelj, co-auteur de l'étude, directeur de la recherche au Grantham Institute et professeur de sciences climatiques à l'Imperial College de Londres. Le réchauffement planétaire affecte déjà des milliards de personnes dans le monde, ajoute-t-il, en soulignant que chaque 10e de degré supplémentaire provoquera davantage d'événements climatiques extrêmes qui seront aussi de plus en plus intenses. Éviter le naufrage. La trajectoire climatique ne laisse toutefois rien présager de bon. Le budget carbone, qui maintient possible la limitation du réchauffement à 1,7 degré Celsius, aura été dépassé d'ici tout au plus 9 ans, selon l'étude. Et les engagements volontaires pris par les pays signataires de l'accord de Paris nous conduisent toujours vers une hausse des températures qui risque de dépasser les 3 degrés Celsius au cours des prochaines décennies. Selon le GIEC, un tel scénario signifie que l'humanité ferait face à un recul de l'espérance de vie et à un recul de la qualité de vie dans plusieurs régions de la planète. L'état de santé et de bien-être de la population serait ainsi substantiellement réduit, et cet état continuerait de se dégrader au cours des décennies suivantes. Les experts font d'ailleurs une mise en garde contre une hausse majeure des prix des aliments, des conflits et des migrations climatiques. Sans oublier la disparition des coraux, la dégradation irréversible des forêts tropicales et une accélération de l'extinction des espèces. Ce scénario de naufrage du climat est toujours évitable, soulignent les scientifiques de 17 pays qui signent la nouvelle étude publiée mercredi. Mais pour freiner la hausse du thermomètre planétaire, il faudrait ramener à zéro les émissions imputables aux énergies fossiles et freiner la déforestation. Réduction des fossiles. Plusieurs pays, dont le Canada, se sont justement engagés à atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050. Mais pour Damond Matthews, co-auteur de l'étude et professeur au département de géographie, urbanisme et environnement de l'Université Concordia, ces engagements sont insuffisants pour limiter le réchauffement à un seuil sécuritaire. En clair, il faut en faire plus et plus vite. Et surtout, souligne M. Matthews, le respect des cibles climatiques est incompatible avec l'augmentation des infrastructures d'énergie fossile, comme les nouveaux projets d'exploitation, les pipelines et les usines de gaz naturel liquéfié. Analyste climat-énergie chez Nature Québec, Anne-Céline Guyon estime que ce nouveau rapport d'experts devrait inciter les décideurs politiques à redoubler d'efforts. 3 ans de budget carbone, ça veut dire que c'est au gouvernement en place actuellement d'agir et de mettre leurs énergies à la bonne place. Nous n'avons pas de temps à perdre avec de fausses solutions. Pour le Canada, ça signifie de ne pas faire reposer son intérêt national sur l'expansion des énergies fossiles, mais, au contraire, de soutenir les provinces dans leur transition énergétique. Malgré ses engagements en faveur de la lutte contre la crise climatique, le Canada risque de contribuer à l'amplification du problème dans les années à venir, selon un rapport publié lundi par Oil Change International. Selon l'organisme écologiste, le Canada fait partie de la courte liste des 4 pays où seront développés la majorité des nouveaux projets d'exploitation d'énergie fossile au cours de la prochaine décennie. En 2021, l'Agence internationale de l'énergie avait pourtant prévenu qu'il fallait mettre un terme à cette expansion de l'industrie pour espérer atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. 4 ans plus tard, la production augmente toujours et le pétrole, le gaz et le charbon représentent aujourd'hui 75% de la consommation énergétique de l'humanité. C'était l'humanité sur le point de dire adieu à un avenir climatique sécuritaire. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 18 juin 2025 dans Le Devoir.
Le plus grand caricaturiste de l'histoire du Québec, un texte d'Olivier Picard, paru le 18 juin 2025 dans La Presse. Après plus de 50 ans dans les médias québécois, le caricaturiste Serge Chapleau a été nommé mercredi le 18 juin 2025 chevalier de l'Ordre national du Québec par le premier ministre du Québec, François Legault, à l'Assemblée nationale. Vous êtes certainement l'un des plus grands caricaturistes, sinon le plus grand de l'histoire du Québec, a déclaré le premier ministre du Québec en accueillant M. Chapleau sur scène. Pour un jeune politicien, la consécration, c'est de se faire caricaturer par Serge Chapleau, a poursuivi M. Legault en concluant son discours sur les réalisations du caricaturiste. Du jeune homme cadet d'une famille de 7 garçons de la petite patrie au caricaturiste de 79 ans que le Québec connaît aujourd'hui, Serge Chapleau a fait beaucoup de chemin et connu une brillante carrière dans plusieurs médias québécois. C'est impressionnant de voir qu'après tant d'années de carrière à caricaturer le monde de la politique, ces mêmes gens te reçoivent et t'honorent, a déclaré Serge Chapleau. Après avoir étudié à l'École des beaux-arts de Montréal de 1964 à 1968, Chapleau passe du tabloïd Forum de l'Université de Montréal en 1969 à Perspective en 1972, au journal Le Devoir en 1985 et à la presse depuis avril 1996. François Cardinal, vice-président information et éditeur adjoint de la presse, témoigne. Depuis ses débuts à Perspective, que les plus vieux lecteurs n'ont pas oublié, Serge Chapleau s'est imposé comme le maître de la caricature au Québec. Tant la qualité de son trait que le mordant de son propos en ont fait un artiste de l'actualité adoré du public et admiré de ses pairs. C'est un honneur pour la presse de voir son œuvre publiée chaque jour sur ses plateformes pour le plus grand bonheur des lecteurs. Le caricaturiste a remporté à 8 reprises le premier prix de la catégorie caricature au Concours canadien de journalisme entre 1997 et 2009. Il a été nommé membre de l'Ordre du Canada le 1er juillet 2015 par le gouverneur général David Johnston. La même année, il remporte le prix Hyman Solomon conjointement avec Terry Mosher, Aislinn, son ami, pour l'excellence journalistique de son travail. En 2018, il reçoit un doctorat honorifique de la Faculté des arts et des sciences de l'Université Concordia. De 1993 à 2013, les éditions du Boréal publient L'année Chapleau, une compilation de ses meilleures caricatures de l'année. Les éditions La Presse poursuivent l'édition des recueils de 2014 à aujourd'hui dans Chapleau. En 2020, le même éditeur publie le livre rétrospectif Chapleau depuis mes débuts. À la blague, en ouverture de cérémonie, le premier ministre du Québec a souligné que Serge Chapleau lui avait fait plaisir avec sa caricature du jour. Il savait qu'on se voyait, que je le chicanerais, donc il a fait ça, sa caricature, sur Pablo Rodriguez ce matin. C'est une très bonne idée, a dit François Legault en riant. C'était le plus grand caricaturiste de l'histoire du Québec, un texte d'Olivier Picard, paru le 18 juin 2025 dans la presse.
Priyanka sert de fabuleux drag brunch au petit écran. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, paru le 18 juin 2025 dans le magazine Fugue. Vous aimez les mimosas, les déjeuners gargantuesques et l'énergie des dragues le matin? Il se peut que vous tombiez en amour avec Drag Brunch Saved My Life, Crave, l'émission dans laquelle Priyanka vient en aide à des restaurants ontariens en mettant sur pied des drag brunch aussi colorés que populaires. D'où vient cette idée de sauver des propriétaires de restaurants avec les drag brunch? J'ai créé le concept avec Daniel Birnbaum dans mon salon. On a développé l'idée, on en a parlé à Belle, propriétaire de Crave, et on a obtenu le feu vert. J'ai cru très fort en notre concept à la minute où nous y avions pensé. Mon objectif principal est de prendre le drag et de l'amener à l'extérieur des espaces queer habituels, parce que je suis convaincu que nous pouvons divertir tout le monde. Tu as co-animé la quatrième saison de We're Here. Quelles sont les différences entre les deux émissions? We're Here était une expérience fabuleuse. Cette émission est tellement puissante et importante. Cela dit, les deux projets sont bien différents. Dans Drag Brunch Saved My Life, on ne se concentre pas uniquement sur des personnes de SLGBTQ+. Et au lieu de mettre des humains en drag, on met des restaurants en drag pour les aider à aller mieux financièrement. Je sais ce que c'est d'investir tout ce que tu as dans une passion. Alors je voulais aider les gens qui décident de suivre leurs rêves, indépendamment de leur orientation sexuelle. Pourquoi l'émission se déroule-t-elle uniquement en Ontario? Pour la première saison, on avait besoin de tester notre idée près de la maison pour voir si ça fonctionnait bien. Qui sait ce qui va se passer si une autre saison est produite? On croise les doigts. Puisque tu côtoies des vedettes internationales depuis des années, comment était-ce d'auditionner des dragues locales à chaque épisode? Les dragues locales sont les meilleures. Chaque artiste qui a auditionné à l'émission avait une perspective différente sur le drag. Une histoire super intéressante et presque toujours, 9 fois sur 10, de très bonnes performances. Au fond, ce n'est pas parce que des dragues ont une réputation internationale qu'elles sont nécessairement les meilleures. Il y a tellement de talent local, et j'adore pouvoir le mettre en lumière avec l'émission. À quel point était-ce étonnant de voir autant de gens ouverts à recevoir l'aide des dragues? J'étais très surprise. C'est énorme de voir des propriétaires de restaurants me contacter pour obtenir de l'aide. Ça montre à quel point le monde est en train de changer. Quelle place les drag brunch occupent-ils dans ta carrière? Tous les drag brunch auxquels j'ai participé avant RuPaul's Drag Race ont été essentiels dans mon développement. J'adorais voir à quel point ça procurait de la joie, que ça pouvait être payant pour nous et qu'il fallait se mettre en drague sitôt que personne n'arrivait à le croire. C'est un bon terrain de jeu pour se définir en tant que performeur, performeuse. Comme c'est difficile de divertir les gens durant le jour, les drag brunch sont un bon test. À quoi ressemble l'impact de l'émission des semaines, mois après votre passage? Ça a aidé la plupart des restaurants grâce à l'énorme visibilité qu'on leur a donnée. Par exemple, en 2024, Bloom Bistro avait vécu une fête des mères très difficile et les critiques étaient si mauvaises que ça plombait leur entreprise. Un an plus tard, le restaurant était plein et Yale ont pu offrir un super show. Notre aide allait bien au-delà de l'organisation d'un drag brunch. Je suis heureuse de voir qu'elles ont du succès grâce aux nombreux outils qu'on leur a fournis. Dans un autre ordre d'idées, plusieurs personnes espèrent qu'il y aura une autre saison de Drag Race All Stars All Winners et que tu en feras partie. Accepterais-tu l'invitation? Moi aussi, j'espère qu'il y aura une deuxième saison. Ce serait fantastique. Par contre, je ne sais pas encore quelle serait ma réponse. Ça va dépendre du point où je serai rendu dans ma vie et dans mon parcours. Qui sait? Quand reviendras-tu à Montréal? J'adore Montréal. J'ai présenté ma tournée mondiale Devastacia au studio TD et il y avait tellement de gens. C'est sûr à 100% que je vais présenter un spectacle à Montréal lors de ma prochaine tournée. Les fans chez vous sont différents, différentes. Et elles me font sentir très heureuse et en sécurité. J'ai hâte d'y retourner. Info, Drag Brunch Saved My Life sur Crave avec Priyanka. C'était Priyanka sert de fabuleux drag brunch au petit écran. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 18 juin 2025 dans le magazine Fugue.
Visitez l'Alentejo. Au-delà du Tage, un Portugal préservé. Un texte de la rédaction paru le 17 avril 2024 dans Voyageurs du Monde. Discrète, alors qu'elle couvre une vaste partie du sud du Portugal, la région de l'Alentejo offre une diversité de paysages façonnés par l'histoire et le temps, qui s'écoule paisiblement sur cette terre aux airs de Toscane, entre une sieste au pied d'un olivier et une dégustation d'un vin de renom. Au sud de Lisbonne, l'Alentejo, littéralement « au-delà du Tage », déroule un océan de plaines céréalières piquées de chênes-lièges, de vignes et d'oliveraies, des rives de l'Atlantique à la frontière espagnole. Plus discrète que l'Algarve qui l'aborde, cette région aux allures de Toscane lusitanienne a adopté un tempo qui lui est propre. Douce quiétude de la vie rurale sous un blond soleil. Les villages chaulés, fortifiés pour certains, se juxtaposent harmonieusement à cette campagne immuable, conférant à l'Alentejo son identité bien marquée. Aux portes de la capitale, c'est un autre monde. Un Portugal préservé, bien loin de la branchitude lisboète. La campagne ondule imperceptiblement, traversée de quelques routes photogéniques. Pas l'ombre d'une contrariété à l'horizon. Au printemps, les fleurs sauvages tapissent les champs de pointillés blancs et roses, bientôt suivis des coquelicots et de la lavande. L'été, l'étagement des prairies dorées, du vert coriace des oliviers et du bleu profond du ciel a quelque chose d'émouvant. On peut rouler des kilomètres durant sans croiser âme qui vive, exception faite des cochons noirs et des vaches à longues cornes. Et quand finalement la silhouette blanche d'un village se dessine, on s'y octroie une halte sans rupture de charme. Quelque agitation, toute relative, qui pourrait survenir à un marché où une terrasse de café ne saurait durer. La tranquillité est ici un mode de vie. Entre siestes routinières et nouvelles échangées sur les bancs des places publiques. Même Évora, la capitale musée de l'Alentejo, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, manifeste une douceur de vivre intacte malgré son aura touristique. Un attachement à la terre. Mais la région n'a pas toujours été si paisible. L'histoire moderne a retenu son nom à l'heure de la révolution des œillets de 1974. Bien avant cela, les invasions, reconquêtes et alliances successives ont façonné une diversité d'architecture ainsi que de formidables valeurs d'entraide et de pugnacité. Les Alentejanos sont fiers, mélancoliques aussi, profondément attachés à la terre et aux métiers traditionnels. Des cultivateurs qui avaient dû fuir vers les grandes villes reprennent possession de leurs terres. Des architectes et designers réhabilitent des écoles en maisons d'hôtes. Des céramistes, tisserands et tapissiers installent leurs échoppes dans les villages. Foulard rouge autour du cou, les hommes perpétuent le cante alentejano, chant traditionnel polyphonique qui raconte la terre, la famille, la dureté de la vie rurale. Une région labellisée. En poursuivant la route bucolique, on croise ici et là une herdad, la Quinta Alentejana. Ces remènes agricoles regroupent historiquement des terres cultivées, blé, maïs, oliveraies, vignes, d'autres pour l'élevage, les prestigieux chevaux lusitaniens, le bétail, et une maison de famille souvent modeste. Certaines herdades ouvrent aujourd'hui leurs portes aux hôtes de passage, en particulier celles dédiées à la production du vin et de l'huile d'olive, car les vignobles et oliveraies prennent peu à peu le pas sur les champs de céréales. L'Alentejo compte désormais 8 zones d'AOC, produisant vin de renom et huile d'olive subtile. De part et d'autre de cette campagne, deux parcs naturels émergent en points cardinaux de l'Alentejo. Celui de la Serra de São Mamede, au nord, se distingue par ses imposantes formations rocheuses de quartz, terrain de prédilection des randonneurs et VTTistes, et ses villages médiévaux aux demeures chaulées. Au sud, les rivages accidentés du fleuve Guadiana camoufle ici une chute d'eau, là, un épais maquis, là encore, les ruines d'un moulin à eau séculaire. Entre les deux, le long de la frontière espagnole, s'étire l'Alqueva. Plus grand lac artificiel d'Europe, il a été conçu pour irriguer les vignobles et oliveraies endommagés par la sécheresse. C'est à lui aussi que la région doit son label de Starlight Tourist Destination, pour ses conditions optimales d'observation de notre galaxie. De là, on prend de la hauteur pour gagner le village médiéval de Montsaraz, nid d'aigle de l'Alentejo. Les bougainvilliers s'échappent des murets de pierre, les ruelles grimpent jusqu'au château dans une atmosphère poétique presque hors du temps. En contrebas, un dernier regard sur le lac, la rivière Guadiana qui s'écoule tranquillement et les plaines vallonnées de l'Alentejo, à perte de vue. In the mood. En Alentejo, la campagne ondule imperceptiblement et l'on vit ici l'art de prendre son temps, de se perdre dans les nuances de vert des plaines agraires, des collines couvertes de chênes et d'oliviers, de flâner dans les villages de maisons blanches piquées de fleurs au bord de pavés irréguliers. On est là proche de Comporta, celle que l'on chuchote ou dont on parle sans la nommer de peur de trahir le secret. Direction l'Est et l'arrière-pays ensuite. Un monde rural qui sait vivre et recevoir pour peu que l'on s'y attable. Du côté d'Estremoz, on se perd dans les carrières de marbre blanc ou rose. La région de Montsaraz n'est pas avare en domaines viticoles de qualité et en gastronomie généreuse. Bucoliques à souhait, ces paysages invitent à la promenade. Dessinés par de petites ruelles médiévales et ornées d'élégants palais et d'enchanteurs patios d'influence mauresque, le centre d'Évora déploie des charmes d'authenticité. C'était « Visiter l'Alentejo au-delà du Tage, un Portugal préservé ». Un texte de la rédaction paru le 17 avril 2024 dans « Voyageurs du monde ».